Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 17h30 en temps universel, 13h30 dans la capitale américaine. Bienvenue à l'écoute, Jacques Aristide pour vous présenter Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce jeudi 1er août 2019. En RD Congo, une quatrième personne testée positive au virus d'Ebola à Goma, alors que le Rwanda indique n'avoir jamais fermé sa frontière.
Depuis hier, c'était la suppose la plus totale, non seulement à Goma, mais aussi à Bukavu. Tous les bateaux qui ont voyagé la nuit d'avant ont été interdits d'accoster.
En Mauritanie, premier passage de relais de l'histoire du pays entre deux présidents élus avec la prestation de serment de l'ex-général El Ghazouani. Accord de paix historique au Mozambique pour mettre un terme à des décennies de conflits entre le pouvoir et la RENAMO. Aux États-Unis, duel entre Joe Biden et Kamala Harris lors d'un nouveau débat dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Ne manquez pas non plus vos rubriques habituelles, la Minute Éco et les sports dans 10 minutes. Le Rwanda assure n'avoir jamais fermé sa frontière avec la République démocratique du Congo au lendemain de la mort d'un deuxième cas d'Ebola à Goma. Au total, 4 cas ont été signalés dans la capitale du Nord Kivu, dont 2 décès. Cela fait un an, jour pour jour, que l'épidémie a été déclarée dans le nord-est de la RDC, Ekiabadou.
La ministre rwandaise de la Santé, Dr Jeanne Gashumba, a affirmé dans une conférence de presse à Kigali que la frontière n'a jamais été fermée et reste ouverte. Le deuxième malade d'Ebola décédé mercredi à Goma était un orpailleur qui travaillait dans la province de l'Ituri, mais vivait avec son épouse et leurs 10 enfants dans le quartier pauvre de Kiziba. Sa fille âgée d'une année et son épouse ont été testées positives, ce qui porte à 4 le nombre de cas signalés dans le chef-lieu du Nord Kivu. Un premier cas a été détecté le 17 juillet en provenance de Butembo. Le lendemain de son décès, l'OMS a élevé l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola au rang d'urgence sanitaire mondiale. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngasimbinje Kasi, a déclaré que les tests effectués sur 15 cas suspects se sont révélés négatifs. Depuis le 1er août 2018, 2607 cas ont été confirmés et il y a eu 1813 décès et 776 personnes ont été guéries de l'Ebola.
Nous reviendrons sur cette épidémie d'Ebola dans notre partie magazine. En Mauritanie, l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été investi président de la République aujourd'hui, alors que le pays a été secoué par de nombreux coups d'État entre 1978 et 2008. C'est la première fois que deux présidents élus se succèdent. Claire Morin-Gibourg.
Je jure de remplir mes fonctions en toute impartialité et dans le respect des lois et de la Constitution, a solennellement déclaré Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani lors de sa prestation de serment à Nouakchott. Élu lors de la présidentielle du 22 juin, il a été investi président de la République islamique de Mauritanie par le chef du Conseil constitutionnel. Il succède à son ami de longue date, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. 11 chefs d'État africains ont fait le déplacement, dont le Sénégalais Macky Sall et les présidents des pays du G5 Sahel, engagés dans la lutte contre le djihadisme. S'adressant à la population, il a promis d'être le président de tous les Mauritaniens. Il a rappelé que la sécurité du pays était sa priorité, promettant de renforcer les capacités de l'armée, et il s'est engagé à lutter contre les disparités sociales.
Nouveaux affrontements meurtriers au Nigeria, on déplore des dizaines de morts, dont au moins 25 soldats et plus de 40 combattants islamistes dans des combats intenses entre les armées régionales et les djihadistes d'ISWAP. C'est le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une branche de Boko Haram. L'attaque qui vient d'être revendiquée par l'ISWAP a eu lieu lundi dernier dans la ville de Baga, sur les rives du lac Tchad. Ce sont précisément 20 soldats nigérians et 5 soldats tchadiens marins de la force régionale conjointe qui ont été tués depuis juillet de l'an dernier. L'ISWAP intensifie ses attaques contre les bases militaires du Nord-Est et a fait des dizaines, voire des centaines de morts au sein des armées régionales et accumule un important arsenal de guerre. Au Cameroun, le dirigeant des séparatistes anglophones, Julius Ayub Tabé, a entamé une grève de la faim depuis la prison de Yaoundé pour protester contre ce qu'il appelle la disparition de codétenus après des mutineries. Ayub Tabé, président autoproclamé de l'Ambazonie, état que les séparatistes anglophones veulent créer au Cameroun, et 9 de ses partisans ont cessé de s'alimenter depuis la nuit dernière. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, la prison de Yaoundé a été le théâtre d'une mutinerie. Le gouvernement a annoncé l'arrestation de 177 personnes, dont des séparatistes anglophones, après ces incidents. En Somalie, le maire de Mogadiscio est mort. Abdirahman Omar Osman avait été blessé la semaine dernière dans un attentat des militants islamistes Shebab dans la capitale et avait été admis dans un hôpital de Doha au Qatar. Des milliers de Soudanais ont répondu aujourd'hui à l'appel dans la capitale Khartoum et d'autres villes du pays pour protester contre le meurtre cette semaine de 6 manifestants, dont 4 étudiants tués par balle. Le général Jamal Omar, membre du conseil de transition militaire qui dirige le pays depuis la destitution du président Omar El-Béchir en avril dernier, a accusé les paramilitaires des redoutées forces de soutien rapide d'avoir tiré sur la foule. La sécurité renforcée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, 2 scanners corporels et 4 détecteurs de traces d'explosifs au point de contrôle des passagers sont entrés en opération aujourd'hui. Il s'agit d'un don du département d'État américain dans le cadre de son programme d'assistance antiterrorisme avec le soutien financier du Bureau de la lutte contre le terrorisme. Les équipements d'une valeur de plus de 800 000 dollars font partie d'une aide totale d'1,4 million de dollars de ce programme du gouvernement américain. Au Mozambique, le président Filipe Nyusi et le chef de la RENAMO, Osufo Momad, ont signé un accord de paix historique aujourd'hui pour mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et l'ex-rébellion devenue principale partie d'opposition. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Cet accord de paix met un terme à un long processus de négociations initié par le leader historique de la RENAMO, Alfonso Ndlakama, décédé en mai 2018. Il intervient à quelques mois des élections générales prévues en octobre. La cérémonie retransmise par la télévision nationale s'est déroulée dans la base militaire de la RENAMO, dans le centre du pays, 27 ans après la fin de la première guerre civile. Il a été signé alors que le régime du président Nyusi combat une insurrection djihadiste dans le nord du pays qui a fait plus de 250 morts depuis octobre 2017. Peu après l'accession à l'indépendance du pays, la RENAMO a combattu le gouvernement dirigé par le Frelimo pendant 16 ans. Cette guerre civile qui a fait 1 million de morts a pris fin en 1992. La RENAMO s'est alors transformée en parti politique après la signature d'un accord de paix, ce qui a ouvert la voie à des élections multipartites en 1994.
Jared Kushner est en Égypte. Le gendre et conseiller principal du président américain Donald Trump s'est entretenu aujourd'hui au Caire avec le président Abdel Fattah al-Sissi de la paix au Proche-Orient. Jared Kushner effectue une tournée dans plusieurs États de la région pour promouvoir le plan de paix de Washington, très controversé, rejeté par les Palestiniens et critiqué par la Jordanie. Hier, il a rencontré à Amman le roi Abdallah II de Jordanie et a eu des entretiens en Israël avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, et Kamala Harris ont été aux prises sur la question du système de santé hier soir à Détroit lors d'un débat. Leurs rivaux en ont profité pour aiguiser les attaques contre les deux têtes d'affiche. Compte rendu, Eric Manirakiza.
L'ancien vice-président de Barack Obama avait livré une prestation assez terne lors du précédent débat en juin. En revanche, Biden, 76 ans, s'est montré cette fois-ci plus incisif face à l'assaut en règle de ses concurrents. Il a attaqué en premier une de ses principales rivales, Kamala Harris, sur ses propositions en matière de couverture maladie. La sénatrice noire est revenue sur le sujet qui avait été au cœur de leur premier affrontement. Si ces ségrégationnistes s'étaient imposés, je ne serais pas sénatrice aujourd'hui, lui a-t-elle lancé. Et Barack Obama n'aurait pas été en mesure de vous nommer à ses côtés, a-t-elle ajouté. Le sénateur noir Cory Booker a reproché à Biden, qui fut sénateur pendant 36 ans, d'avoir mis son nom sur toutes les lois pénales depuis les années 70, responsable de l'incarcération de millions d'Américains. Joe Biden a également été trié pour son refus de dépénaliser les entrées clandestines aux États-Unis, à la frontière mexicaine en particulier. Tous les candidats avaient prôné dans leurs propos liminaires les valeurs de l'unité pour battre Donald Trump et restaurer l'âme de l'Amérique. Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit État de l'Iowa le 3 février 2020.
Au Yémen, au moins 49 personnes, dont de nombreux policiers, ont été tuées aujourd'hui dans deux attaques contre des forces formées par les Émirats arabes unis à Aden. L'un des attentats a été revendiqué par les rebelles Houthis. Le gouvernement, reconnu par la communauté internationale, a condamné la double attaque qui a été perpétrée après une période de calme relatif. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanik Talani.
Un des principaux syndicats nigérians du pétrole et du gaz naturel menace de déclencher une action revendicative pour résoudre un conflit de recrutement avec Chevron. Le syndicat accuse le groupe américain Chevron d'avoir licencié des centaines de travailleurs nigérians et d'avoir modifié des contrats en violation d'un accord. Le syndicat exige le retour au travail de tous les employés licenciés. Le gouvernement sénégalais ne compte pas céder face à l'opposition et la société civile qui appellent à rendre plus transparents les contrats d'exploitation du gaz naturel, rapporte l'agence Bloomberg. Cette pression est née à la suite d'un reportage de la BBC sur les conditions d'attribution des blocs gaziers. Le procureur a ouvert une enquête pour vérifier les informations contenues dans ce reportage. Terminons cette minute éco avec le groupe industriel chinois China Yunong Group qui envisage d'investir environ 200 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années au Burkina Faso dans des secteurs comme l'agriculture, la santé et les mines. Selon l'agence Ecofin, Yunong Group va aussi installer une usine pharmaceutique au Burkina Faso et en faire le centre de ses activités en Afrique.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
D'abord, transfert, Nicolas Pépé rejoint Arsenal.
Oui, l'attaquant ivoirien de 24 ans qui évoluait depuis 2 ans à Lille s'est engagé à Arsenal pour une durée non communiquée selon les deux clubs qui ont officialisé le transfert d'un montant record pour les Gunners. Le club londonien a déboursé 80 millions d'euros hors bonus pour attirer l'ailier droit qui a inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière en Ligue 1 avec le LOSC. Arsenal a simplement évoqué un transfert record pour le club alors que Nicolas Pépé devient le joueur africain le plus cher de l'histoire.
C'est aujourd'hui que démarre la mission de Fatma Samoura à la CAF.
La secrétaire générale de la FIFA va évaluer l'instance africaine de football en pleine tourmente. La dirigeante sénégalaise a été nommée déléguée générale pour l'Afrique à partir du 1er août, pendant 6 mois renouvelables pour superviser la CAF. Elle est chargée d'effectuer un audit sur la gestion administrative et financière de l'institution, qui a été secouée par des polémiques et scandales ces derniers mois, dont la finale retour de la Ligue des Champions.
Et justement, Yacouba, la CAF va réexaminer cette finale qui fait polémique.
Oui, Jacques, l'organe dirigeant du football africain dit vouloir réunir incessamment ses instances compétentes pour statuer sur le sort de la finale retour polémique entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Hier, le tribunal arbitral du sport lui a demandé de revoir sa copie. La finale retour disputée le 31 mai entre ces clubs de Tunis et de Casablanca, interrompue par les joueurs marocains furieux après une panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage, devait être rejouée sur un terrain neutre selon une décision prise en juin par le comité exécutif de la CAF, mais le TAS a estimé hier que cette instance n'était pas habilitée à trancher.
Le syndicat des footballeurs dénonce l'engorgement des calendriers, Yacouba.
Effectivement, le syndicat mondial des footballeurs professionnels met en garde contre les risques liés à la multiplication des matchs et l'engorgement des calendriers dans un rapport qui compile les statistiques de plus de 500 joueurs sur les 12 derniers mois. La FIFPro met en exergue le cas du sud-coréen de Tottenham, Son Heung-min, qui a disputé 78 matchs au total cette saison, dont près des trois quarts sans avoir eu 5 jours de repos. L'ailier n'a par ailleurs eu aucun jour de congé pendant l'hiver, selon la FIFPro. Le syndicat exhorte donc les ligues professionnelles à introduire une période de repos obligatoire de 4 semaines l'été et de 2 semaines l'hiver et à respecter au minimum 5 jours de repos entre chaque rencontre.
Merci Yacouba, à demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristé toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Et retour en RD Congo. Une quatrième personne a été testée positive au virus d'Ebola à Goma. Une femme dont le mari est décédé hier après avoir été contaminé par l'épidémie qui a causé plus de 1800 décès dans le pays. Eddie Sango a joint le nouveau coordonnateur de la lutte contre Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe.
C'est l'enfant donc du deuxième cas qui vivait, parce que le deuxième cas a passé 10 jours à domicile, donc c'est l'un de ces 10 enfants qui a été testé positif. Le contact au risque.
Y a-t-il pas risque qu'il y ait d'autres cas, parce que la personne a passé quand même beaucoup de temps avant qu'on le découvre, il est venu du côté de Bounia.
Oui. Bon, mais on suit ça de plus près. D'ailleurs, il y a même sa femme donc qui est tombée malade aussi, qui est testée positif. Donc c'est le quatrième cas.
Et maintenant que le Rwanda a fermé sa frontière, est-ce que cela peut avoir des conséquences? Est-ce que c'est lié à ces cas?
Certainement, c'est lié à ces cas, mais nous devons aussi respecter les recommandations que le directeur général de l'ONS avait données en déclarant Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale. Il y avait donc les recommandations qui demandaient aux pays voisins de ne pas fermer les frontières pour ne pas entraver le commerce et le déplacement des personnes. Mais de notre côté, nous faisons donc tout pour que l'épidémie ne soit pas transportée dans les pays voisins.
Peut-être qu'ils ont peur avec tout ce qui s'est passé, même à côté de Bukavu, donc ils ont peur par rapport à tout ça, hier.
Oui, mais ça c'est clair. Ce n'est pas un cas suspect, c'est simplement un contact qui a voyagé. Bon, mais tout ça, il faut gérer. Il ne faut pas créer la panique. Mais un contact n'est pas dangereux. Il peut, au moment où il a des symptômes, ça devient, on doit donc bien contenir.
Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui est en charge de la lutte contre Ebola en RDC, il était en ligne de Beni. De l'autre côté de la frontière, au Rwanda, c'était la confusion ce matin à Gisenyi, la ville jumelle de Goma. Idriss Fall a joint sur place Jack Kaora, notre ancien correspondant.
Depuis hier, c'était la psychose la plus totale, non seulement à Goma, mais aussi à Bukavu, où tous les bateaux qui ont voyagé la nuit d'avant ont été interdits d'accoster. Et Papi accostait qu'à 12h au lieu de 6h30 comme d'habitude.
À Gisenyi aujourd'hui, comment ça s'est passé à Goma?
Donc la psychose qui a pratiquement emballé les gens à Goma, qui a emballé les gens au Sud Kivu et plus particulièrement à Bukavu, a été vécu aussi à Gisenyi. La frontière a été fermée depuis 6h du matin, ce qui a un peu surpris la plupart des Congolais, mais aussi des expatriés qui habitent Gisenyi. Comme vous le savez, la plupart des expatriés qui travaillent dans les grandes ONG à Goma habitent Gisenyi et donc ne pouvaient plus traverser. Les activités ont été perturbées et il y a des milliers de femmes qui traversent des déportés qui n'ont pas pu exercer leurs activités. Et donc, c'était la psychose la plus totale. Et les gens étaient dans une inquiétude, se demandaient quel sera le lendemain.
Apparemment, la frontière est rouverte depuis 13h, heure locale.
Justement, c'était notre soulagement. À 13h, les messages ont pu circuler. Comme la nouvelle technologie est au top aujourd'hui, les gens ont commencé à s'envoyer des messages sur WhatsApp, Facebook, pour dire, voilà, les frontières viennent d'être réouvertes. C'est comme ça que le mouvement reprend, mais timidement, parce que...
La présence du virus, en quoi ça a changé les habitudes des gens, les relations interpersonnelles?
Ce qui est d'être à Goma, ou être à Butembo, ou être même ici, la manière de se saluer aujourd'hui, on se salue plus à la main, on ne se touche plus, donc on ne s'embrasse plus. Donc, tout a été compliqué, quoi. Tout le monde suspecte tout le monde. L'enfant suspecte ses parents, les parents suspectent les enfants, les amis, les amitiés. Donc, voilà, c'est compliqué, quoi. Qui pouvait croire que la frontière entre le Congo et le Rwanda pouvait être fermée, et plus particulièrement dans une ville, les villes comme Gisenyi, fermée parce qu'il y a des cas d'Ebola. Donc, c'est la suspicion de tous côtés, quoi.
On écoutait Jacques Kaora, notre ancien correspondant de la VOA qui habite à Gisenyi au Rwanda. Donc, je vous disais qu'il y a un quatrième cas positif à la maladie à virus Ebola dans la ville de Goma. Ce nouveau cas est la femme de l'homme qui est décédé hier matin. Nous sommes en train d'effectuer les investigations autour de ce cas. C'est ce qu'a déclaré le docteur Boubacar Diallo, coordonnateur en charge de la surveillance de cette épidémie d'Ebola pour le compte de l'OMS. Hier, la fillette de ce couple a également été testée positive au virus Ebola après avoir présenté des signes cliniques de la maladie quelques heures après la mort de son père, d'après les autorités sanitaires congolaises. Le deuxième malade d'Ebola décédé hier à Goma était un orpailleur, vous l'avez entendu, qui travaillait à Mungwalu dans la province voisine de l'Ituri, dans l'est de la RDC, mais vivait avec son épouse et leurs 10 enfants dans le quartier pauvre de Kiziba, dans le nord de Goma. Il a présenté des signes de la fièvre hémorragique le 22 juillet. Il a reçu des soins ambulatoires dans un centre communautaire, mais ne s'était rendu à l'hôpital de référence de Goma que le 30 juillet, où il a été directement transféré à un centre spécialisé. Un premier cas enregistré dans une métropole avait été détecté à Goma mi-juillet. Un homme présenté comme un pasteur qui venait de Butembo, l'un des principaux foyers de la maladie, à 250 km à vol d'oiseau au nord. Le lendemain, son décès le 17 juillet, l'OMS avait élevé la 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola en RDC au rang d'urgence sanitaire mondiale. Relativement circonscrite dans 2 provinces, Nord Kivu dans l'est et l'Ituri dans le nord-est, sa propagation à 2 grands centres urbains densément peuplés et au-delà des frontières de la RDC lui donnerait une nouvelle dimension. D'après le bulletin quotidien des autorités sanitaires congolaises daté de mercredi, le cumul des cas est de 2701, dont 2607 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1813 décès, 1719 confirmés et 94 probables et 776 personnes guéries. Et voilà donc, nous allons vous tenir au courant de cette situation à Goma en RD Congo.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, plus de 6 mois après son élection, le président congolais Félix Tshisekedi devrait bientôt pouvoir former son gouvernement. Les plateformes FCC de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et Cash de son successeur se sont entendues pour gouverner ensemble. L'équipe du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba devrait compter 65 ministères, dont 42 pour le FCC, majoritaire au Parlement, et 23 pour Cash. Comment se fera cette gouvernance FCC-Cash? Quels sont les obstacles et défis? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Ballet diplomatique à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Depuis hier, mercredi, près d'une 20aine de personnalités étrangères, dont plusieurs chefs d'État africains, assistent à la cérémonie d'investiture de Mohamed Ould Ghazouani, le président élu à la tête de la Mauritanie, pour un mandat de 5 ans. La cérémonie se déroule au centre des conférences de Nouakchott, où nous retrouvons notre correspondant Mohamed Diop.
10 chefs d'État africains ont fait le déplacement. Il s'agit de ceux de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la République du Congo, du Mali, du Niger, de la République arabe sahraoui, du Sénégal et du Tchad. 2 pays du Maghreb, à savoir l'Algérie et le Maroc, ont respectivement envoyé leur premier ministre. Nourdine Bedoui et Saad Din Al-Ousmani. Il y a également le ministre émirati de la tolérance, Sheikh Nahyan Ben Moubarak Al-Nahyan, le ministre omani de la justice, Abdelmalek Ben Abdallah Ben Ali El-Khalili, et un conseiller de l'émir du Koweït, Sheikh Fahd Saad Abdallah Salem, venu des pays du Golfe. Concernant les pays occidentaux, on note la présence du ministre espagnol des Affaires étrangères, Joseph Borrell Fontel, et du président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale française, Jean-Jacques Bridé. Il y a aussi la présence du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Et parmi les présents, il y a Mohamed Ben Shambas, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ils assistent à l'installation de l'ex-chef d'état-major des armées, Mohamed Ouldou Ghazouani, à la tête de la République islamique de Mauritanie, installation qui sera faite par le Conseil constitutionnel. Mohamed Diop, Nokshot, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dakuna Espoir, c'est une association culturelle au Tchad qui œuvre depuis plus de 4 ans pour la récupération des enfants de la rue et des enfants démunis de N'Djamena. Les membres de cette communauté initient des danses dans les espaces publics comme un moyen d'attraction de ces enfants pour les placer dans un centre d'accueil. Le correspondant de VOA Afrique, André Kodmajingar, s'est rendu dans le quartier général de ces enfants. Son reportage.
Nous sommes dans le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis situé dans un quartier de la capitale. Parmi les quelques 500 enfants de la rue et de jeunes démunis sensibilisés à travers la danse, quelques-uns ont accepté d'être placés dans ce centre.
Aujourd'hui, au centre, il y a 62 enfants qui viennent de réinsérer déjà 10 dans leurs familles respectives. Et donc là, actuellement, ils sont 52.
Ali Wanda Vokojut, directeur artistique de l'association Tchad Estar. Pour lui, il n'y a pas que de la danse au centre d'Akuna Espoir qu'il dirige, mais aussi de la formation professionnelle dans les domaines tels que la menuiserie, la couture et la mécanique pour aider ces jeunes à se prendre en charge dans l'avenir.
Il y a 15 enfants qui sont en formation professionnelle et aussi il y a les enfants qui ont fait 3 ans dans la rue et donc on les a aussi inscrits à l'école. Sur les 27 inscrits, il y a 24 qui passent en classe supérieure. Il y a 3 jeunes qui sont aussi inscrits au lycée. 2 ils passent en classe supérieure et ces enfants ne viennent pas seulement de N'Djamena. D'autres qui viennent aussi du Cameroun et même du Nigeria. Ceux qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiés dans la rue, on les a récupérés.
Les jeunes filles dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, pensionnaires du 10 centre à ma VOA Afrique, qu'elles ont été victimes de maltraitance, de divorce et de négligence familiale.
J'ai des problèmes avec ma tante paternelle. J'ai perdu ma mère quand j'avais 4 ans et mon père, je ne les connais pas. Ils sont séparés avec ma mère avant qu'elle m'accouche. Larry n'a jamais enfanté. On vient tous d'une famille.
Avant, je suis au Nigeria avec mon père, avec ma mère. Et puis ma mère, elle est malade. On est venu au village pour la soigner. Elle est décédée. Mon oncle, il m'a amené ici. Sa femme, là, elle me maltraite. Tout. Je suis sortie dans la rue.
Si les filles se retrouvent dans la rue par contrainte, les garçons, quant à eux, ont d'autres ambitions.
J'ai été attiré par les amis qui sont dans la rue et je me suis installé avec eux. J'ai même arrêté les études au niveau de 3e. Ça fait déjà un an et 2 mois que je suis ici. Et actuellement, j'ai fait la couture. Je suis très content parce que ma vie a été changée.
Je me suis retrouvé dans la rue à l'âge de 6 ans et je fais déjà 10 ans dehors. Moi, je fais beaucoup de vols. Aujourd'hui, j'ai laissé toutes les choses qui sont mauvaises et je suis en formation déminisée.
La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Viviane Van Stetegem, qui a rendu visite à ses pensionnaires, conseille aux responsables du dit centre de pensée à reconstituer le lien familial de ses enfants.
Même quand ce lien familial peut être assez compliqué, l'enfant devrait appartenir à une famille et que les enfants qui appartiennent à cette famille de Dakuna devraient être un petit peu l'exception. Et puis nous, on va voir comment il les aider de manière plus précise.
André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
Merci, merci les enfants, merci beaucoup.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagno. À la console, on avait l'aide de Karl Sterling. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.